on ne se lasserait pas de l'écouter. C'est l'entrée de j'ai oublié le nom du personnage de Rameau dans les Boréades. Voilà, on me demande souvent l'origine de ce générique, au moment de le dire. J'oublie le personnage principal, mais reportez-vous à l'ensemble de l'œuvre de Rameau, et spécialement aux Boréades, qui sont magnifiques. Alors, émotion, grande joie, nous avons appris il y a quelques heures, en réalité je m'en doutais depuis quelques jours, parce que la date du 1er novembre, date du début des hostilités du FLN contre la France en 1954, nous avons appris donc la libération de notre ami Boualem Sansal. C'est notre ami à tous, c'était mon ami. Tout personnellement, j'avais participé à plusieurs manifestations pour que son nom ne soit pas oublié des mémoires. J'avais aussi fait deux entretiens avec lui auxquels on peut se reporter, publiés par TVL en septembre 2024, quelques semaines avant son incarcération en Algérie, dans des conditions absolument honteuses, parce qu'il est citoyen français. N'oublions pas qu'il y a un autre citoyen français, d'ailleurs, qui est encore emprisonné en Algérie. On peut aussi se reporter la conversation, là, cette fois plus récente, que j'ai mise en ligne toujours sur TVL. Tapez TVL et le nom de mes invités, Boualem Sansal, ou l'ambassadeur d'Ayancourt, qui fut un de ses amis et qui a suivi cette affaire de près. L'affaire qui se conclut. Là, cette fois, je ne m'y attendais pas à pas un énorme pied de nez au président de la République, puisque bien qu'il soit citoyen français, Boualem Sansal, il a été libéré par l'entremise du président de la République d'Allemagne. Je dis ça avec un sourire, mais c'est assez grinçant, parce que c'est vraiment un camouflet, un de plus pour le président de la République et pour la France. Ce à quoi, d'ailleurs, plaisir auquel les gouvernements algériens, depuis quelques décennies, ne manquent jamais. Voilà, reportez-vous à nos conversations sur TVL, si vous le voulez bien, et nous reparlerons de cette affaire avec l'ambassadeur Drayancourt, que j'ai eu récemment au téléphone, et qui acceptera de venir à Radio Courtoisie pour nous relater cette affaire, en espérant que Boualem Sansal ne séjournera pas trop longtemps en Algérie, en Allemagne, il faut dire que sa femme est allemande, et qu'il a toujours eu un grand succès en Allemagne, mais enfin, sa place est en France, ou bien en Algérie, on ne sait jamais. Voilà, pardon de cette. L'actualité m'y oblige, de cette incise, sujet plus grave aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes le 12 novembre 2025, c'est-à-dire le lendemain du jour où nous avons célébré le 107e anniversaire de l'armistice de 1918, par lequel la France, après une guerre terrible, croyait avoir gagné la paix. Et d'ailleurs l'Europe entière, avec l'homme politique Norman Angell, pensait que désormais le siècle qui s'ouvrait serait un siècle de paix. Ben, il n'en fut rien, puisque la guerre a repris peu après. Et comme l'a fait remarquer Charles de Gaulle, au fond, la guerre qui commença en août 14 et qui s'est achevée en août 45 avec Hiroshima, en quoi elle fut mondiale, fut peut-être une sorte de nouvelle guerre de 30 ans. Longue guerre qui a coûté cher à la France, non seulement en victimes et en douleurs, en matériel aussi, bien que l'essentiel du monument fut épargné par une sorte de miracle sur lequel nous avons médité avec Jacques Boncompain et Martial Bild il y a deux ou trois semaines. Mais il y eut surtout un prix énorme, un prix politique énorme à payer pour la France après cette guerre de 30 ans qui est une sorte de dépendance politique. Après les débarquements américains, anglo-saxons de 1917, enfin qui n'est entré en acte qu'en 1918, nous allons en reparler avec mes invités d'aujourd'hui, et après celui de 1944, la France est entrée dans un long cycle de dépendance. Le général de Gaulle s'était laissé à dire que ce débarquement était le prélude, je ne le dirai jamais assez, à une seconde occupation du pays. Je ne sais pas si on se rend compte de la portée de ces mots. Une seconde occupation du pays, et il parla peu après, à plusieurs reprises d'ailleurs, d'une colonisation. Et voilà, bien une cinquantaine d'années, après la parenthèse gaulliste et une prolongation de l'esprit de résistance, on peut dire jusqu'aux années 68-70, le prix à payer est très fort, puisque les conséquences se font voir depuis un demi-siècle sous nos yeux. Et notamment, un qui tient au cœur d'un de mes participants d'aujourd'hui, un de mes intervenants, le colonel Fanet, je le mentionne tout de suite, Pierre Lourse, connu aussi sous le nom de Pierre Lourse, qui m'a apporté quelques témoignages de ce que les services publics essentiels sont assez largement gangrénés, c'est vous dire si la déréliction de l'État est profonde. Voilà, mon autre invité est Laurent Henninger, qui est un historien. Je ne sais même pas s'il faut que je présente Laurent Henninger, parce que c'est un historien audacieux qui a une pensée transversale passionnante. Je ne sais pas si nous aurons le temps d'évoquer chacun des concepts ou chacune des perceptions qu'il a mises sur la table depuis des années. En particulier, je dois vous le dire, parce que je ne le connaissais pas, c'est grâce à Pierre Lourse que je fais sa connaissance aujourd'hui, mais je vous ai lu. Et écoutez, je suis très impressionné par un point sur lequel on pourrait commencer d'ailleurs, Laurent Henninger, la perception du monde l'évolution du monde selon un conflit, une opposition que l'on ne voit pas toujours entre le monde solide et le monde liquide, entre les puissances de la mer et les puissances de la terre notamment. Et peut-être qu'on peut commencer par là, parce que je me demande si ce qui s'est passé au XXe siècle n'est pas une illustration, justement, aussi, de cette théorie. Laurent Henninger, pouvez-vous d'abord me dire si vous avalisez l'idée qu'il y a eu, alors en tant qu'historien de la chose militaire, vous avez écrit un atlas des guerres napoléoniennes, un atlas des guerres de la Renaissance, donc vous avez un regard très, très, très panoramique sur l'histoire. Est-ce que vous acceptez cette formule de la guerre de 30 ans ?
Je l'accepte.
1445, en somme.
Oui, je pense. Alors, je la fais pas mienne de façon exclusive. Je pense qu'on peut avoir les deux visions en même temps. Mais elle est tout à fait intéressante et stimulante intellectuellement.
Comme s'il y avait une grande guerre.
Oui, ça se tient. J'adopte pas totalement cette idée, mais je l'adopte partiellement, parce qu'elle est vraiment très intéressante.
Pierre Lourse, que vous dit cette formule de guerre de 30 ans ?
Oui, je pense que elle est efficace, en tout cas.
Oui.
Elle est efficace parce que on est dans un mouvement de perturbation qui ne s'est pas arrêté, en quelque sorte, entre 14 et 45.
Voilà.
En cela, oui. Alors après, évidemment...
Il y a l'armistice de 18 qui a été là.
Oui,
un répit.
Oui, il y a eu un répit, mais enfin...
Mal géré, d'ailleurs.
Oui, et puis de toute façon, le mal était fait. La France était déséquilibrée. Il y a ce très bon bouquin de Wenner sur la guerre de 14-18 où il explique qu'effectivement, ça a été un choc déterminant pour l'histoire de la France. Même si effectivement... Il n'y a pas une continuité en ligne continue. Néanmoins, il y a des pointillés qui vont tous dans le même sens. C'est une ligne pointillée qui va de 14 jusqu'à 45.
Alors, il y a des historiens qui disent que la France a commencé à disparaître à ce moment-là. Il y a d'autres historiens étonnants, comme Suzanne Citron, qui était professeure à la Sorbonne, professeure d'histoire, qui prétendent au contraire que la France n'est vraiment née qu'en 1914, puisque c'est à ce moment-là qu'elle s'est retrouvée unie, toute force, toute province et toute langue confondue autour de la langue française. Elle disait que c'était de naissance de 14, ça me
c'est
paraît.
Pas faux non plus.
C'est
mais
vraiment
c'est pas faux non plus, mais moi je suis partisan.
Laurent Henninger.
Je pense que le monde évolue, enfin les choses, pour parler volontairement de façon très vague, évoluent jamais de façon unitaire et linéaire, et que tout évolue séparément. et en même temps de façon combinée, c'est ça le paradoxe, à des vitesses différentes, dans des directions différentes, et il peut très bien y avoir dans un domaine et sous un angle de vue quelque chose qui aboutit en 1914, et tout le reste qui commence à se casser la figure en même temps.
Voilà,
je parle comme,
voilà
je
les
parle
vrais...
comme quelqu'un que...
non,
que
un défunt.
Non, je parle comme, avec des...
Presque
en même
défunt.
Temps, tout le temps. On pourrait me confondre avec quelqu'un que...
Assurez-vous, ça n'arrivera pas.
Avec un président de la République, c'est pas mon idée.
Enfin, voilà, tels sont les grands historiens. Ils ne simplifient pas, en tous les cas. Voilà, et ça, je reconnais votre patte. Deuxième question, Laurent Inger. Tout de même, pouvez-vous nous rappeler cette thèse qui vraiment m'ouvre beaucoup de perspectives entre deux mondes qui s'opposent sans cesse au fil des siècles.
C'est-à-dire que je pense...
Le liquide
et le solide. Alors, j'appelle pas ça le liquide, j'appelle ça le fluide.
Alors oui, alors on dit aussi liquide ou terrien.
C'est ça.
Maritime, puissance, notre ami commun, Hervé Couteau-Bigard.
Bien sûr.
Je ne peux pas ne pas faire référence.
Bien sûr.
Avait beaucoup aussi suivi votre intuition. Et est-ce qu'on peut dire qu'elle s'applique justement à ce XXe siècle dont nous parlons?
En grande partie, mais pas... Pas de façon directe sur les guerres, de façon indirecte et partielle sur les guerres.
Oui.
En revanche, elle s'applique pleinement au XXe siècle. C'est-à-dire que moi, je parle depuis de...
Alors, redites-nous un peu la théorie en deux mots, parce qu'elle est à longue portée, si on
voilà,
peut dire.
Je pense que depuis l'émergence de ce que les philosophes appellent la modernité, c'est-à-dire au XVe, XVIe siècle, hein, avec la fin du Moyen-Âge, la naissance des temps modernes, la Renaissance, etc., il y a une... Alors, pas forcément une lutte, mais souvent une lutte, mais pas toujours, mais en tout cas une dialectique permanente entre ce que j'appelle les forces fluides et les espaces fluides et les espaces solides. Les espaces solides, c'est très simple, hein, c'est la Terre. C'est là où les êtres humains se tiennent debout et vivent. Et les espaces fluides, c'est pas uniquement la mer, c'est également l'air.
Le ciel.
Et c'est également l'air et c'est également l'espace extra-atmosphérique maintenant. Et on pourrait presque y rajouter, mais c'est un débat, les terres, c'est-à-dire l'espace où circulent les ondes électromagnétiques.
Et nous sommes dans une civilisation de l'air, justement. Enfin,
oui. Il y a déjà suffisamment d'auteurs qui ont dit que, quelque part, l'essence, par exemple, de l'Afrique, c'était la terre, c'était la tellurique. L'essence de l'Asie était aquatique.
Et l'Europe en partie aussi. L'Eurasie, en tous les cas.
Oui, mais et l'Europe était plutôt aérienne. Et c'est vrai que toutes les différentes aristocraties qu'on a pu avoir en Europe depuis facilement 2000 ans, ou en tout cas 1000 ans, ont quelque part toujours développé et adopté des utopies dans leur tête et des représentations qui glorifiaient la chose aérienne.
Oui. Ou maritime.
Aérienne.
Les grandes aventures.
Non, mais vous parlez des choses réelles.
Oui, vous parlez des représentations.
Moi, je parle des représentations et des utopies, des rêves. Les rêves des différentes aristocraties, c'est l'air, c'est des choses de genre. C'est l'opposition qu'on voit dans Shakespeare, dans la tempête.
La tempête, oui.
Vous voyez, qui est une des plus belles, mais aussi une des plus mystérieuses.
Avec deux personnages qui incarnent chacun.
Voilà, avec le personnage de Caliban, qui est laid, bête, brutal.
Terrien,
avec un corps noueux et musculeux, enfin, qui est quasiment...
Celui qui a plus la côte, quoi.
Qui est quasiment simiesque, hein. Et le personnage d'Ariel, qui est un personnage ambigu, diaphane, aérien, qui
magnifique.
Oui, qui est très beau, et qui s'oppose en permanence.
Et ça, c'est un peu la représentation anglo-saxonne et très
des
puissances maritimes.
Mais bien sûr.
Et alors, vous allez très loin, vous avez même permis de comprendre pourquoi je me méfiais beaucoup de la mode du bleu.
Ah,
vous
oui.
faites référence à l'historien Pastoureau, l'historien oui. des couleurs, qui dit que pendant longtemps, le bleu n'a pas eu la cote.
Non.
C'était plutôt le vert chez les Romains.
Ouais, le rouge.
Le rouge
bien
ensuite.
Sûr.
qui sont d'ailleurs mes couleurs préférées, pour tout vous dire, ce qui n'a aucune importance. Mais je me méfie du bleu et j'ai observé, comme vous, que la majorité de mes contemporains, à la réponse quelle couleur préférez-vous, répondent presque uniformément, 2 sur 3 presque.
Bien sûr, mais c'est
le
partout,
bleu.
C'est partout dans
le monde.
Ce qui est
très récent. Et qu'est-ce que c'est le bleu? C'est le ciel, c'est la mer.
Absolument.
Justement. C'est le rêve est dans le bleu. C'est
voilà.
À dire.
Absolument. Et maintenant, c'est partout sur Terre ou presque. Hein.
Ah oui.
Alors peut-être pas dans les tribus papous de Nouvelle-Calédonie, de Nouvelle-Guinée, pardon, mais partout ailleurs dans le monde, y compris en Asie, tout ça, c'est le bleu qui a la cote. Et là, je pense qu'il y a vraiment un changement d'ordre anthropologique et philosophique tout à la fois au niveau planétaire. L'utopie de l'humanité, maintenant, est passée dans le bleu.
Et est-ce que l'on peut dire qu'au XXe siècle, les puissances de la mer... Alors, il y avait déjà la Grande-Bretagne au XIXe, mais le grand renfort des États-Unis, je viens de l'esquisser pour... présenter un des points saillants, je crois, du XXe siècle, en tous les cas du XXe siècle français, a été le triomphe donc des puissances maritimes.
Ah bah oui, bien sûr.
Et ce qu'on appelle l'Occident, qui au fond, d'Helsinki jusqu'à Los Angeles, ce que j'appelle l'Occident, moi, je ne crois pas que la France y soit totalement incluse, pour tout dire. Je me sens plus européen qu'occidental, ce que dit Poutine aussi, la Russie est européenne, elle n'est pas occidentale. Est-ce que vous ne pensez pas que ce XXe siècle, à partir de 1917 et 1918, l'armistice, justement, dont nous avons célébré l'anniversaire hier, n'est pas le début d'une immense, d'un immense accaparement et de la force et de l'imaginaire?
Bien sûr.
En tous
bien
les cas,
sûr.
En Europe et en France,
bien
par
sûr.
Les puissances maritimes.
Bien évidemment, mais on pourrait dire aussi, si on veut vraiment faire de l'archéologie, que ça commence en 1815, avec la défaite, avec la victoire anglaise.
Oui. À ce moment-là, 1793, de cette façon, parce que aussi une victoire anglaise que la Révolution française.
Ah, ça c'est un débat, mais ça peut commencer aussi avec la défaite de la France dans la guerre de 7 ans, plutôt.
Oui, alors 18e.
Ouais. Voilà, parce que...
Oui, 18e.
Je pense que... Mais ça, c'est un débat qui...
immense.
Immense, mais je ne suis pas partisan de la thèse comme quoi la Révolution est la chute de la France. Et même si la Révolution a fait du mal, parce que toute Révolution fait du mal, toute Révolution est forcément violente. Donc ça fait forcément du mal, et c'est de la violence et du chaos.
Bon, c'est peut-être pas la fin de la France, mais c'est le début de l'hégémonie britannique incontestable.
Oui, mais...
Parce que la Grande-Bretagne avait été battue sur les mers par Louis XVI, quand même.
Le début de l'hégémonie britannique, c'est la victoire dans la guerre de 7 ans.
Compensé par la bataille
de Yorktown ensuite,
gagnée par Louis XVI.
Oui, mais c'était pas suffisant.
Oui.
Parce qu'on a travaillé pour le roi de Prusse, une fois de plus. On a travaillé pour les Américains. On n'a pas travaillé pour la France.
C'est ce que vous voulez dire. Excellent. Alors, revenons-en au XXe siècle. Je voudrais qu'on fasse un grand panorama du XXe siècle. Mon colonel, dites-nous si la présentation que j'ai faite tout à l'heure vous agrée. Et ensuite, je demanderai à Laurent Henninger de nous parler, en historien spécialement militaire qu'il est, de ces deux débarquements américains qui sont... très symbolique de la prise en main de la puissance et de l'imaginaire par des puissances maritimes.
Je voudrais juste revenir 10 secondes sur votre historienne qui dit que la France a vraiment...
Suzanne Citron,
que la France donc aurait débuté en 14.
Elle était membre du Parti communiste, il faut dire.
Alors, dire que la France a débuté en 14, ça me rappelle tout à fait, si vous voulez, mais où est donc passée la 5e compagnie? C'est-à-dire perdue mais groupée. Effectivement, ça a groupé, ça a rassemblé les Français. Au travers de la guerre, il fallait bien que tous les patois se comprennent. Mais néanmoins, la France a commencé à se perdre, et c'est ce que dit d'ailleurs Dominique Viner dans le siècle de XIV, a commencé à décliner à partir de ce moment-là. Et ça n'a pas arrêté. Il y a eu 40, il y a eu 68, et puis voilà. Voilà où on en est.
Il ne faut pas se lasser de rappeler d'ailleurs... arrêtez-moi, Laurent Henninger, si je suis trop audacieux, que la première histoire de France, en tous les cas des Francs, date de Grégoire de Tours, et c'est le 7e siècle après Jésus-Christ. Donc il y a déjà une conscience française il y a très longtemps. J'en ai marre qu'on dise tout le temps que la France n'a pas cessé de naître, de dépérir et de renaître, peut-on dire, mais ah c'est oui. une vieille affaire.
Pour moi, la France, elle naît il y a 1000 ans environ, à partir du moment où le roi des Francs, enfin, ou de France, déjà...
À ce moment-là, oui, le France, oui.
L'île de France, en tout cas, décide de proclamer que le roi de France est empereur en son royaume.
Ah oui, c'est le 12e siècle, ça, c'est oui, la souveraineté.
Mais
ça,
oui, non, mais la formule est du
oui,
12e siècle.
Oui, oui, oui.
Mais en fait, l'idée est bien antérieure.
Et puis, il y a Bouvines, qui est quand même une date oui, incontestable.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'abord et avant tout, il y a cette idée de dire nous nous séparons totalement, nous coupons le cordon ombilical avec l'Empire,
voilà.
Et nous refusons, nous abandonnons définitivement cette utopie qui consiste, et qui est celle des impériaux,
oui.
Qui consiste à vouloir recréer l'Empire romain d'Occident.
Au bénéfice de l'Empire germanique.
Ben voilà, alors, et là, les Français, enfin, ce qui vont devenir les Français, non, c'est fini. Et depuis 1000 ans, la France est l'emmerdeur de l'Europe, et moi j'en suis...
voilà,
j'en
j'adore suis, cette formule.
J'en suis très fier.
L'embêteuse du monde, fier. Dit ah, Jean oui. Giraudoux.
Oui. Ah oui, 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 mais il a raison, j'en suis très fier. Et c'est pour ça que la France est vraiment la quintessence de la nation. Les Allemands le disent eux-mêmes, die große Nation. Ils nous appellent depuis longtemps. Et que la France refuse...
Plutôt moqueur, d'ailleurs.
Refuse l'idée d'empire.
Voilà. Bah, vous savez, c'est pas tout à fait notre sujet, mais avec vous, je pense qu'on pourrait ouvrir 120 000 portes et elles sont toutes agréables à prospecter.
Ouais.
Remarquez qu'au soir de Tolbiac, c'est-à-dire à la fin du 5e siècle, Clovis, qui n'est pas encore qui est roi des Francs, mais pas roi de France, enfin, en tout cas, il n'est pas sacré, bat les Alamans, très près de Strasbourg d'ailleurs, et on est très étonné, les historiens sont très étonnés, y compris les biographes de Clovis, qu'il n'ait pas poussé outre. Et il y aurait une explication dans le fait que Clovis expliquera à Rémy, c'est une conversation, ce sont des lettres qu'on a gardées, qu'il estimait qu'au-delà du Rhin, ce n'était pas son royaume. C'est très intéressant.
Pourquoi pas, oui, oui.
Il y a
pas.
Aussi Louis XIV qui refusera un paiement d'un arbitrage favorable au pape, Pignerol et je ne sais trop quelle autre terre, oui. Et Louis XIV dira, tout gonflé d'importance qu'il était, ces terres ne sont pas françaises.
Oui, oui.
Donc il y a une conception de la puissance bornée sur laquelle vous insistez, oui. Et qui est à mon avis fondamentale.
Absolument, et ça fait partie d'une longue suite de phénomènes qui pour moi trace une vraie continuité de la France, quels que soient les régimes.
Oui, oui.
Et c'est pour ça que j'ai beau être un républicain farouche.
Je vois.
Je ne rejette pas.
À tout péché miséricorde, hein, je l'ai
je
pas.
Je sais bien, mais je ne rejette pas la royauté française. Oui. Elle fait partie
vous
de mon héritage.
Comme de Gaulle à la continuité.
À complètement.
Oui.
À complètement. Il y a une vraie continuité. Alors à l'intérieur.
Et comme Michelet aussi d'ailleurs.
Mais
c'est
oui,
pas,
mais
c'est
oui.
Pas
et
neuf,
alors
oui.
Bien sûr, dans cette continuité, il y a des heurts, il y a des bisbilles.
Et même Bainville.
Oui, mais
oui,
bien sûr.
Très bien, très
mais il y a des bisbilles, il y a eu des querelles dynastiques et des prétendants au trône de France qui se sont fait des saloperies aussi entre eux. Hein. Donc, et ça fait partie du jeu politique et de la vie des animaux, hein, comme on dit. Voilà, il y a une vraie continuité.
Parfait. Mais avec vous, la conversation pourrait être longue. D'ailleurs, j'annonce à nos chers auditeurs que je viens de décréter par un décret in petto que la présente émission ne durera pas une heure, mais deux heures. Voilà, tant pis pour ceux qui ont autre chose à faire.
C'est un oukase.
Et si on est viré de ce studio, eh bien nous poursuivrons la conversation.
Au bistrot.
Ou alors dans une autre conversation. Alors, venons-en à ce 20e siècle.
Oui.
Comment voyez-vous la présentation, peut-être un peu rapide et polémique, que je fais de ce siècle et des conséquences, et peut-être même des présupposés des deux débarquements américains, celui de 2017 et celui de 1917 et de 1944.
Écoutez, oui, c'est sûr que ce sont des débarquements qui sont pas faits exclusivement pour nous aider et par bon cœur et par générosité d'âme, bien évidemment. Ce qui n'empêche que je ne vais pas cracher sur la tombe du malheureux garagiste du Kansas qui est venu mourir à Omaha Beach, le malheureux...
Et qui est enterré.
Et qui est enterré. Bon, le malheureux, bien sûr, paix à son âme. La puissance, le gouvernement, les autorités, les oligarchies américaines, dans un cas comme dans l'autre, avaient un objectif. Et d'ailleurs, en 1918, quand ils arrivent, parce qu'ils ont beau déclarer la guerre aux puissances centrales en 1917, en fait, les troupes américaines n'interviennent réellement qu'en 1918, ils ont beau intervenir, c'était déjà préparé depuis longtemps. Ça avait en fait commencé depuis une vingtaine d'années. Il y a un historien américain, qui a un nom finlandais d'ailleurs, mais bon, qui a fait une histoire de l'économie de guerre américaine depuis le XVIIe siècle.
Vous savez, la Finlande est aussi une puissance maritime. Oui. Ils sont entre eux, hein, les oui. Occidentaux.
Et cet historien dit, en fait, une fois que les Américains eurent fini de régler leurs deux problèmes intérieurs, c'est-à-dire les guerres indiennes et la guerre de sécession, une fois que ces deux problèmes intérieurs ont été réglés, ils ont commencé à s'intéresser à ce qui se passait en dehors de leurs frontières.
Ça a été déjà la doctrine Monroe en 1821.
Déjà, il y avait ça, la doctrine Monroe. Mais là, c'est de façon
plus concrète.
En fait, en 1875, c'est-à-dire 10 ans après la fin de la guerre de sécession, il y a eu une grande réunion, plus ou moins secrète, enfin de secrète, non, mais discrète, elle n'était pas dans la presse, entre les représentants du Sénat américain, les représentants des Assyries de Pittsburgh, des grandes Assyries de Pittsburgh, et les représentants de l'état-major de la marine. Et c'est là qu'ils ont décidé le lancement d'une grande flotte océanique à vocation internationale, et qui se sont lancés là-dedans.
Et en théorisant Mahan, etc.
Alors, et ensuite, Mahan est arrivé pour théoriser ça.
Voilà.
Et aussi, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont envoyé leur flotte faire un grand tour du monde dans les années 1898-1900, un grand tour du monde où ils ont fait des shows dans tous les grands ports où ils allaient. C'était pratiquement en même temps que la grande tournée du cirque de Buffalo Bill, d'ailleurs.
Oui, c'est ça.
Comme par hasard.
Ça en visait la conquête des esprits,
ah, mais complètement.
La séduction.
Complètement. Oui, oui. Ils ont toujours fait ça.
Ah, ça, c'est très intéressant. Pierre Lours, avez-vous lu, pardon de vous couper, mais on va revenir à Laurent Henning. Avez-vous lu, mon cher Pierre Lours, ce livre formidable? Alors, je ne pose pas la question à Laurent Henninger, parce qu'à mon grand étonnement, il ne l'a pas lu. Qui s'appelle, qu'il faut absolument lire, séance tenante, Le Sauveur américain de Dominique Lormier.
Non, je n'ai pas lu.
Ce livre, j'en expose la thèse, est très étonnant. C'est un peu ce que on vient d'esquisser. Oui, les États-Unis ont déclaré la guerre enfin en 1917, comme disait le général de Gaulle. En 14, ils n'étaient pas là. En 39, ils n'étaient pas là. Ils ont attendu quelques années, quand même. Bon, déclaration de guerre l'été 2017. Premières arrivées des troupes de Pershing. Et Dominique Lormier explique que pour commencer, il a fallu les former parce qu'il n'était pas très aguerri.
Absolument.
Au sens précis du terme.
Oui.
Ce qui a un peu embarrassé l'état-major français, qui avait autre chose à faire avec un énorme front sur les bras que de former des troupes qui arrivaient toutes fraîches comme ça. Et il y a même une lettre de Foch qui s'en plaint à Clemenceau. Bref.
Oui. Et cet élément, il est très important parce que le lancement de la puissance impériale et impérialiste américaine, c'est avec la marine. Parce que l'armée de terre américaine...
Elle n'était pas...
Elle est... En fait, ce qui est intéressant, il faut comprendre ce qu'est l'armée de terre américaine. Parce que dès le départ, dès la fondation des États-Unis à la fin du XVIIIe siècle, les Américains sont animés par des principes de la République romaine. Et le principe de la République romaine, c'est les légions n'ont pas le droit de pénétrer dans Rome.
Oui.
C'est ce qu'on pourrait appeler, alors j'ouvre des guillemets, une sorte d'antimilitarisme de droite.
Oui, c'est ça.
Vous voyez, pour, par opposition à l'antimilitarisme de gauche que nous on connaît en Europe depuis les années 50-60, bien sûr. Non, c'est une sorte d'antimilitarisme de droite, ce sont les patriciens qui se protègent des légions. Et c'est pour ça que César va violer ça en faisant franchir le Rubicon.
Alors, j'en reviens, Laurent.
Attendez, je termine, parce que c'est important ça.
Revenons-en en 1918.
L'armée américaine, elle va toujours rester petite.
Oui.
Elle va toujours rester petite. Elle va augmenter brusquement pendant la guerre de sécession. Et immédiatement, la guerre de sécession terminée, on démobilise.
Ça reflue. Donc, ceux qui arrivent en 1917 sont tout frais.
Mais ils ne sont pas simplement tout frais. C'est que l'armée américaine, en dehors de la parenthèse de la guerre de sécession, depuis l'indépendance américaine jusqu'à 1918, c'est quoi? C'est une armée qui est toute petite, qui n'est pas prestigieuse, et qui est une armée qui est en fait faite pour combattre les Indiens, les bandits mexicains, et les grévistes.
À la frontière, les grévistes, oui.
C'est une armée, c'est ce que j'appellerais une gendarmerie lourde.
Oui, parce qu'ils sont sur leur île, l'énorme île américaine, et ils ne craignent personne.
Voilà.
Pierre Lours, je viens d'exposer la thèse de Lormier, j'ajoute un point, est-ce que vous le saviez, mais je vais poser la question sous forme de devinette. À quoi ils emploient leur temps? Alors, pendant toute l'année 1917, et jusqu'en mars 1918, quand ils commencent vraiment à combattre. Je signale qu'à ce moment-là, d'ailleurs, ça commence à aller très mal pour l'Allemagne. Pas tant les armées que l'Allemagne à l'intérieur, puisque déjà il y a des grèves en janvier et février. Terry Mooney, le mouvement spartakiste d'ailleurs, à Berlin, qui paralyse Berlin. Et les Américains ne sont toujours pas entrés en ligne quand ça commence à se désagréger à Berlin. C'est pour ça que le sauveur américain, je mets 18 guillemets. Mais vous savez ce que fait le sauveur américain, mon cher Pierre Lours? Je vous le donne en mille. Alors, il se forme sur le dos des militaires français. Et quelle est notre grande activité?
Non,
je vous donne en mille. Il monte des cinémas et des expositions itinérantes. C'est ce qu'expose Lormier. Vraiment, je vous conjure de lire Le Sauveur américain de Dominique Lormier. Avec un seul thème, Le Sauveur américain est là. Ils n'avaient toujours pas combattu, puisqu'ils attendront, je le répète, mars.
C'est ce qu'ils ont fait en 1945, avec les accords concernant le cinéma.
Voilà.
Ils ont fait la même chose. Mais moi, je voudrais juste dire une chose.
Oui, Pierre.
Je pense que cet élan impérialiste, cet élan impérial des Américains, peut s'expliquer par le fait qu'il ne faut jamais oublier que les Américains, ce sont des émigrés. Ils ont été chassés d'Europe pour différentes raisons, politiques, religieuses, etc. Et ils veulent se venger de l'Europe, premièrement. Mmh. Et deuxièmement, ils ont le goût. Ils partent, ils s'en vont, et donc il faut qu'ils conquièrent autre chose. Ils sont foutus à la porte. Et donc, pour eux, c'est toujours pousser plus loin la conquête, la frontière. La frontière, c'est essentiel pour les comprendre.
Oui.
Et quelles ont été les frontières successives? Voilà. Quelles ont été les frontières successives?
Un non-frontiérisme.
Il y a eu la frontière avec les Indiens, ensuite la frontière avec l'Amérique latine, ensuite la frontière européenne en 17 et en 45.
Et on va
la frontière de la Lune aussi, la soi-disant la conquête de la Lune. Et maintenant, de nouveau, si vous voulez, ils continuent...
Vers l'Est.
Oui, exactement.
Vers Austin.
Donc, ce sont des gens qui...
La Russie est le poids suivant. Quoi.
Et ils conquièrent par définition, parce qu'en fait, ils ont été chassés, d'une façon ou d'une autre, de leur terre, de l'Europe, en ce qui concerne les WASP, en tout cas. Et donc, ils ont une revanche à prendre... Et de cette revanche, ils la prennent en conquérant des territoires, en conquérant tout le temps, et notamment en conquérant l'Europe, contre laquelle ils ont une dent.
Alors c'est très intéressant, parce que je parlais tout à l'heure de Jacques Boncompain, qui ici même, il y a quelques semaines, il est ancien, alors il est président de l'Association de défense du mémoire de Maréchal Pétain, mais avant il était un des directeurs de la SACD, il a relevé cette anecdote tellement passionnante, alors je la reprends, pardon si nous radotons un peu, dans les toutes dernières années, je ne sais pas si c'est 1898 ou 1899, quelques années après la naissance du cinéma, Pathé et je crois Gaumont envoient quelques émissaires aux États-Unis pour vanter les mérites de cette nouvelle découverte, le cinéma, et donc le cinéma français. notamment les frères Lumière. Vous savez ce qu'ils ont fait, les autorités, ce qu'ont fait les autorités américaines? Ils les ont foutus en prison. Et dès qu'ils les ont relâchés sur intervention de l'ambassadeur de France, eh ben, on a organisé leur exfiltration, parce qu'il n'était pas question que le cinéma français pénètre aux États-Unis et dans les esprits américains, parce qu'ils avaient, enfin états-uniens, il vaut mieux dire états-uniens quand même, parce que bah, ils avaient compris que c'était un mode d'influence, l'image,
évidemment,
énorme,
évidemment.
Et quand ils arrivent en 1917, ils ont tellement la mémoire de la chose qu'ils commencent par installer des cinémas, mais des cinémas, on pourrait dire, ambulants, à la gloire du cinéma américain et du sauveur américain. C'est extraordinaire.
Ça m'étonne pas du tout. Mais pour aller, pour prolonger l'idée qui vient de nous être soumise par le colonel Lours, et c'est marrant que vous parliez de cinéma, parce que je vais prendre un exemple là-dessus. Plus encore que la frontière, ce qui ne veut pas dire que je suis contre cette idée de frontière, mais cette idée de frontière, elle s'accompagne nécessairement chez eux d'une idée d'antagonisme. Il faut
oui, de guerre.
De guerre, donc, bien sûr. Il faut en permanence qu'ils aient un antagoniste.
Oui. Et aujourd'hui, c'est la Russie.
Alors, aujourd'hui, c'est la Russie. Chine. Ça peut être autre chose. Demain, ça peut être...
C'est constamment la France, d'ailleurs.
Oui, ça, c'est vrai.
Ils nous ont vraiment dans le nez.
Mais hein. Bien sûr.
Parce qu'on est un autre universel pour eux, vous comprenez,
oui,
on est très dangereux.
Évidemment.
Voilà, on est d'accord.
Il y a une anecdote comme ça que j'ai apprise un jour en lisant un livre sur l'histoire du cinéma aux États-Unis. Dans les années 30, à l'époque du triomphe des comédies musicales avec Fred Astaire et Ginger Rogers, Fred Astaire et Ginger Rogers à l'écran dans ces comédies musicales, systématiquement se souriaient l'un à l'autre, tombaient amoureux, dansaient ensemble, etc. Et les feuilles de choux de journaux à scandale et de presse people de l'époque, hein, qui racontaient dans les détails les vies privées, les histoires de coucherie et tout ça de Hollywood, ont inventé...
Ils sont cotons, il faut dire.
Oui, ont inventé l'idée que dans la réalité, Fred Astaire et Ginger Rogers se détestaient. Et se faisaient la guerre dès que le tournage était terminé. Et en fait... C'était complètement faux.
Il faut jouer l'antagoniste.
Il faut jouer l'antagoniste. Ils étaient amis, ils s'entendaient très bien à la ville, comme on dit. Mais il fallait, pour faire saliver le public américain, inventer le fait qu'ils étaient en guerre l'un contre l'autre.
Alors c'est tellement vrai qu'un autre directeur de la SACD, Laurent Inger, je vous passerai ce texte, je ne l'ai pas sous les yeux, à moins que je l'ai, mais je doute de l'avoir, un des premiers, parce que la SACD, elle a été créée par avant même la Révolution. Hein. C'est une vieille société française qui défend les auteurs, compositeurs, dramatiques. Robert de Flers, en 1921, envoie une lettre terrible aux parlementaires. Vous savez pourquoi ? Pour s'alarmer de la poussée du film américain. Et en disant, c'est contraire à notre sensibilité, à notre imaginaire, car la France est un pays pacifique, la France est un pays aux mœurs adoucies, la douce France.
Absolument.
Et ce cinéma massif est en train, déjà en 1921, de contrarier notre sensibilité.
Mais bien sûr, mais vous savez, là aussi, c'est pas un hasard, le cinéma français, il est né à partir du monde du théâtre. Oui. Ce qui est normal, et c'est pour ça que le cinéma français a toujours été, à l'époque où c'était un vrai cinéma français, bon aujourd'hui c'est rien du tout, mais bon, mais dans le cinéma français des années 30, 40, 50, c'était le règne des grands dialoguistes.
Oui, oui.
Hein? Et c'est pour ça que le cinéma français joue beaucoup sur les dialogues.
Spécialement quand il a prospéré sous Vichy, d'ailleurs.
Voilà. Ouais. Bon.
Parce qu'on était à l'abri du cinéma américain.
Oui, ouais, mais enfin, on n'était pas à l'abri du cinéma allemand non plus.
Oui, enfin, vous savez, Abetz, n'entendait pas le promouvoir
comme ça. Le cinéma français, avant, pendant ou après Vichy, c'était le règne des grands dialogues et tout ça. Ouais. Et c'est directement l'affiliation avec le théâtre.
Ouais, ouais.
Le cinéma américain a été fondé par des gens qui n'étaient pas du tout le monde du théâtre, qui étaient les gens du cirque.
Alors, voilà pour l'image.
Non, c'est pas une image. Le cirque, ça veut dire que c'est pas du tout la même chose que le théâtre. C'est l'action. la rapidité, les couleurs dans tous les sens.
Les bruits.
Les bruits. Oui. Et c'est pour ça que ça correspond mieux.
Alors, les bruits. Parce qu'il y a l'image, donc, mais il y a aussi le son.
Oui.
Parce que je crois que le son, vous savez, quand on dit l'entendement,
oui.
L'entendement, c'est l'intelligence. Je n'ai pas cet entendement, c'est-à-dire je n'ai pas l'intelligence.
Absolument.
Ça passe par l'oreille. Qu'est-ce qui forme l'esprit? C'est beaucoup l'oreille.
Oui.
Et est arrivé aussi, vous me voyez venir,
le jazz.
La musique. Alors, déjà beaucoup entre deux guerres.
Oui.
La musique américaine, jazz, et puis ensuite, encore plus, on peut dire, à la Seconde Guerre. Nous allons entendre une illustration, c'est un morceau que vous avez choisi.
Absolument.
Je l'annonce tout de suite, mais vous allez le reconnaître, chers auteurs, chers auditeurs et téléspectateurs, Count Basie. Walking in the...
Jumping at the Woodside.
Ah, c'est pas walking, jumping at the Woodside. Voilà, je n'ai pas de dilection pour cette langue, décidément. Un bobino pour commencer.
En 2025, Radio Courtoisie fête ses 38 ans. Pour célébrer ce bel événement, rejoignez-nous à la messe d'Action de Grâce à l'occasion de cet anniversaire et aux pots amicales qui auront lieu le samedi 22 novembre en l'église Saint-Eugène-Sainte-Cécile, 4 rue du Conservatoire, Paris 9e. Pour participer aux pots, inscrivez-vous en ligne sur notre site internet anniversaire.rc.fr ou par courriel à secrétariat@rc.fr ou encore par téléphone au 01 46 51 00 85.
Un peu brutalement, mon cher Benoît, à l'occasion de vous saluer et de vous féliciter pour vos talents. Et je vous félicite aussi beaucoup, Laurent Henninger, d'avoir choisi cette musique ô combien illustratrice ou illustrative. Je dois dire que hélas, ou trois fois ou quatre fois hélas, ça marche.
Bien sûr.
La séduction est immédiate. Vous aimez le jazz, j'aime le jazz.
Bien sûr.
Pareil pour Fabrice, non?
Oui, bien sûr.
Oui, on aime tous le jazz. Vraiment. Mais on se laisse séduire.
Bien sûr. Bien sûr, mais parce que c'est vrai que c'est une nouveauté, le jazz a réellement été un apport, hein, et une créativité originale. C'est même la seule créativité originale d'un point de vue artistique des États-Unis.
Bah, elle est africaine au moins autant qu'américaine. Hein.
Pas tant que ça.
Non. Allez dire ça à Miles Davis.
Non. Elle a une part africaine, mais on peut pas dire que le jazz est une musique africaine. Elle a une grosse part africaine, c'est certain.
Mais la soul music quand même.
Non, mais attendez, je parle.
Et les gospel.
Non, mais la soul music, ça intervient beaucoup plus tard. Le jazz, tel qu'il apparaît, c'est le produit d'une hybridation entre des musiques africaines, des musiques hispaniques, des musiques irlandaises.
Et de la modernité.
Et des musiques juives d'Europe centrale.
Et la musique des boogies, le train,
aussi,
la modernité,
absolument,
l'industrie.
Absolument.
Le rythme industriel.
Absolument.
Et ça, c'est pas l'Afrique, le rythme industriel.
Et s'installe l'idée dans les esprits entre les deux guerres et plus encore après la Seconde Guerre, après 1944. Que voilà, la modernité, vous avez prononcé le mot l'un et l'autre, vient d'outre-Atlantique.
Oui.
Et que donc, nous sommes par opposition les ringards.
Exactement.
Et ça s'appelle la colonisation. D'ailleurs, le général de Gaulle dit, je me souviens de la date, le 4 janvier 63 à Perfit. Alors, nous avons décolonisé, nous avons réussi la première décolonisation, il pensait à la décolonisation de l'Afrique et notamment de l'Algérie, en 63 c'était réglé, nous allons maintenant procéder à la deuxième décolonisation, la nôtre.
Bien sûr,
phrase énorme aussi.
Le problème c'est que si les Américains réussissent à emporter, mais ça on pourrait il faudrait dire beaucoup de choses sur pourquoi et comment ils ont réussi à emporter le morceau, comme on dit vulgairement, avec cette séduction par la musique, par la mode, par tout ça. On a aussi notre part de responsabilité, parce que dans un combat, quand il y a un vainqueur et un vaincu, il y a le vainqueur qui est plus fort, mais il y a le vaincu qui est plus faible.
Le colonisé, il est de plus en plus faible à mesure qu'il est colonisé et qu'il se perd, et qu'il se perd de vue
les
lui-même.
Les Américains sont arrivés avec le jazz parce que nous, on n'avait rien pour...
Comment on n'avait rien? Et la musique française, ça n'existait pas, peut-être?
Si, mais on avait...
Alors ça, franchement...
Si, il y avait une musique française, mais vous aviez soit une grande musique française...
En 1918.
Vous aviez Debussy, Ravel et tout ça, enfin les grands compositeurs
du
français.
Duruflé, en fait, je ne sais pas.
Forêt,
je,
tout
je,
ça,
je
mais ce sont, c'est de la musique pour les élites. C'est de la musique pour les élites. Le génie américain, ça a été de créer des musiques d'avant-garde qui soient populaires.
Oui.
Pour le peuple.
Mais vous vous rendez compte du mal que ça fait?
Ben le jazz, il n'a pas fait tant de mal que ça.
Non,
le
mais
jazz l'idée, lui-même,
l'idée...
c'est les successeurs du jazz, pour moi, qui ont fait beaucoup de mal. Parce que
qu'on prend dans la figure aujourd'hui.
Oui.
Oui.
Parce que ce sont pour moi des dégénérescences du jazz, pour moi. Dégénérescence plutôt que décadence, parce que dans l'idée de dégénérescence, pour moi, il y a quelque chose de biologique. Comme une pourriture, vous savez, qui s'empare d'un organisme.
Alors ça va loin, vous prononcez le mot pourriture, Laurent Henninger, mais on a l'impression qu'on a tellement intériorisé l'idée que nous sommes, au fond, soumis à une modernité qui vient d'ailleurs, qu'on a un peu, depuis 50 ans, tout laissé tomber. J'en parlais, d'ailleurs c'est l'origine de cette émission, j'en parlais l'autre jour. Je crois que c'était dimanche ou samedi dernier avec mon cher ami Pierre Lours, qui d'ailleurs, je vais lui tirer les oreilles, qui d'ailleurs m'a parlé de vous, Laurent Henninger. J'avais même pas eu, incroyable, l'idée de vous inviter. Pourtant, tout ce que vous écrivez, tout ce que vous dites, tout ce que... tout me passionne. Donc, il faut que vous acceptez de venir en deuxième semaine. D'ailleurs, j'ai d'autres projets pour vous. Bon. Je voudrais bien vous cuisiner un jour pour TV Liberté.
Mon Dieu, d'accord.
Bref, merci Pierre Lours. En tous les cas, je vous taquine, mais c'est bien vous qui avez eu l'idée d'associer notre conversation, qui à l'origine était assez désespérée et désespérante, parce que vous vous posez la question de savoir d'où vient la pourriture, je reprends ce mot, qui gangrène l'État, y compris la gendarmerie. Alors livrez-nous le témoignage qui est à l'origine de notre conversation.
Oui, c'est terrible. C'est terrible parce que Mediapart a sorti il y a quelques jours un reportage de 20 minutes à partir des 90 heures de reportage, enfin de captation d'images qui ont été réalisées par les caméras qui sont portées par les gendarmes mobiles qui sont intervenus lors des manifestations à Sainte-Soline il y a 2 ans et demi. Bon. Donc sur les 90 heures, Mediapart en a sélectionné 20 minutes et où on voit les gendarmes agir pendant cette manifestation, qui a été une manifestation plutôt violente, puisqu'il y a eu 40 gendarmes de blessés.
Des blessés, oui.
Chez les manifestants, il y en a eu 200, dont une quarantaine très grièvement, et 2 ou 4 qui étaient en urgence vitale. Donc les manifestants ont plus, ont plus souffert que les gendarmes. Et donc on voit au travers de ces 20 minutes, on est au milieu des gendarmes et au milieu de leur fonction de gendarmes mobiles et de forces de l'ordre. Et ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression d'être au milieu d'une bande de malfrats. Je le dis avec d'autant plus de peine que j'ai été colonel de gendarmerie pendant 30 ans, j'ai terminé colonel, et donc j'ai évidemment toujours une grande affection pour la gendarmerie.
C'était l'origine de notre conversation.
Voilà. Oui. Et alors si vous voulez, en fait, alors moi je propose, on n'a pas le temps de trop
on va poursuivre, on va faire
je propose que nos auditeurs aillent tout simplement sur YouTube et ils tapent Sainte-Soline gendarmerie et ils auront effectivement ce...
C'est terrible à voir.
Bon, alors y a des... on les entend et on les voit, si vous voulez.
Mais
alors...
ce qui ne veut pas dire qu'on soutient les manifestants
en
face.
Ah non, pas du tout,
Non, mais bon. C'est terrible de voir les gendarmes se comporter
comme des racailles, hein,
des
véritablement.
Racailles, oui, c'est terrible.
Si vous voulez, l'essence de la gendarmerie...
Ah, j'ai bien eu celui-là, t'as vu, t'en ai fait combien aujourd'hui? Moi, j'en fais 3, au moins 3.
Oh bah, voilà, écoutez, je peux vous dire...
Si, avec ça, parce qu'il y a aussi les termes utilisés. Aussi.
Je vais vous dire quelques phrases qu'on entend.
Qui sont pas beaux. Ouais.
Je vais vous dire quelques phrases qu'on entend. Bien joué, en pleine gueule. Il lui a mis une LBD en pleine tête. Il était sec. Ça arrachera des membres. Quand ils seront manchots, ils feront plus grand-chose. Faites-vous plaisir. Allez, défoncez-les. J'ai attendu 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. Ah, c'est je suis au Nirvana, sur l'Everest de la gendarmerie mobile. Et puis des insultes. Enculé, Pulapis, résidus de capote. Non, enfin, bon, c'est assez épouvantable, si vous voulez.
Alors, 50 ans ont passé depuis.
Un gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Contravention, allez, allez, pas de discussion. Allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité.
Oui, alors j'ai choisi cette chanson
75 ans plus tard,
voilà, et interprétée par cet artiste polymorphe extraordinaire qui est Bourvil, parce que tout simplement, si vous voulez, c'est une époque des années 50, c'est une époque où on faisait les choses sérieusement et aussi avec humour,
avec bonhomie,
alors que maintenant on est dans un amateurisme pitoyable et avec une grande prétention. Nous sommes des prétends creux. Nous sommes prétentieux et creux à la fois. Prétends creux.
Bon. Alors, mais,
alors voilà. Si vous voulez, pour revenir au gendarme
qu'est-ce
mobile.
Qu'est-ce qui s'est passé, c'est ça.
Qu'est-ce qui s'est passé, il s'est passé.
C'est ça la question de cette émission. Comment expliquer que nous soyons tombés si bas jusqu'au pourrissement, vous avez utilisé le mot de pourriture, du cœur même de l'État, qui est quand même la gendarmerie. Qui
bien sûr. Moi, je pense qu'il s'est passé essentiellement, mais pour toute la société, c'est l'effondrement moral. Et l'effondrement moral a commencé, grosso modo, avec la Révolution française, avec la lutte contre, tout simplement, la chrétienté, et avec, évidemment, les valeurs morales qui allaient avec. Et petit à petit, on a réussi, évidemment, à gommer le clergé, et ensuite on a réussi à gommer tout simplement les paroissiens, les gens qui allaient aux messes, et ensuite on a gommé même les valeurs. C'est ce que dit Emmanuel Todd.
Oui.
Il dit qu'effectivement, la ruine de la société occidentale vient du fait qu'il n'y a plus de support moral à cette société. Et je pense que la gendarmerie, comme toutes les autres institutions, comme tous les autres domaines de notre vie actuellement, est touchée par cette décadence. Il n'y a pas de raison, si vous voulez, qu'une institution soit épargnée.
Bah, moi, je vais vous livrer mon hypothèse. Peut-être qu'on n'est pas d'accord, Laurent Henninger. Je vais vous donner le mot de la fin, car hélas, trois fois hélas, nous arrivons au bout de notre émission déjà. On se plaignait d'avoir trois heures, c'était long, mais maintenant, on n'en a plus qu'une, pour mon cher Pierre Lours. Et c'est dur. Mon hypothèse, c'est aussi qu'un peuple soumis, séduit, aliéné, Henri Gobard se disait, terrible phrase des années 60, le général de Gaulle s'est fait une certaine idée de la France pendant que les Français se faisaient une certaine idée de l'Amérique. Terrible phrase.
Oui.
Est-ce que, au moins autant que l'effondrement moral dont vient de parler Pierre Lours, il n'y a pas un effondrement politique de la souveraineté, de la conscience d'être un grand acteur de l'histoire et de la soumission à un autre État, une autre culture, un autre imaginaire supposé être celui de l'avenir.
Moi, je pense que si. Je veux dire, la Révolution française était passée depuis longtemps. La France a quand même réussi à produire des Clémenceau, des De Gaulle.
Et des écrivains.
Des écrivains.
Tout au long du 19e et 20e.
Des Jacques Bainville, on citait son nom tout à l'heure.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Ce sont des épiphénomènes.
Ah non.
Ce n'est
pas que des épiphénomènes.
Je crois, malheureusement.
Pierre, vous exagérez. Le 19e,
très fécond pour la France. La France d'avant. C'est, je comprends ce que vous voulez dire.
Il y a
dire.
Une restauration, de toute façon, on disait.
Il y a une restauration. Bon, enfin, elle, cela dit, elle n'est pas brillante, la restauration, mais elle est moins brillante
enfin,
que...
Enfin, nous divergeons. Mais enfin, ouais, poursuivez enfin, sur votre
excusez-moi,
réponse.
Mais Charles X, nous a, c'est lui qui nous a... qui a conquis l'Algérie. Hein. C'est lui qui nous a mis
non,
dans
non,
la...
Non, il n'a pas conquis l'Algérie.
Dans laquelle nous sommes maintenant.
Il a fait une opération de police dans deux ports algériens qui nous ont kikinés, qui volaient nos femmes. C'est autre chose. Ce n'est pas du tout la colonisation. Oh, nous avons des conversations en perspective.
L'opération de police, elle était quand même financée par la Banque de Vindel, et la Banque de Vindel avait d'autres objectifs que Charles X.
Il fallait mettre une raclée au port d'Alger et d'Oran, voilà. Bon,
ça, c'est vrai, mais on aurait pu s'en contenter, et on a fait plus, c'est ça le problème.
Bon, c'est surtout la République. Bon,
c'est surtout Louis-Philippe aussi.
Alors, poursuivons sur cette idée de la soumission morale.
Oui, la soumission, elle est... c'est pas ce qui encourage un peuple à être digne, à être debout. Hein? Et puis vous savez, moi, ma thèse, c'est que la masculinité populaire française, pas la masculinité aristocratique, hein, la masculinité populaire française, elle est née pendant la Révolution, c'est celle des sans-culottes et ensuite des grognards de la Grande Armée. Bon, cette masculinité populaire française... Au XXe siècle, elle n'a pas arrêté de se faire casser la gueule.
Oui.
Elle a été bousillée dans les tranchées de la guerre de 14.
Oui, c'est la paysannerie surtout.
Pas uniquement la paysannerie.
Il faut que je vous arrête. Je vois bien qu'il faut que nous poursuivions cette conversation.
Ah oui.
On ouvre les questions de tous les côtés. Vous êtes passionnant, Laurent Henninger. Merci d'être venu. Merci de revenir, puisque vous m'en faites la promesse. Merci,
juste
Pierre
pour
Lourdes.
Dire que je pense que les USA se perdront dans les steppes.
Bon. Alors, sur cette note optimiste, je rends l'antenne, parce que j'ai peur que, comme il l'a fait la dernière fois, mon cher ami Benoît nous coupe le sifflet, tout simplement. C'est l'occasion de le remercier et pour sa sévérité et pour ses talents. À la semaine prochaine, chers auditeurs. Cette émission sera rediffusée, passionnante, je dois le dire, sera rediffusée, comme elle l'est toujours, le jeudi à 23h. Elle est évidemment... facile d'accès sur les réseaux en ce qui ne doit pas s'appeler les podcasts. Il va falloir trouver un autre nom, ça existe peut-être, une retransmission sur Radio Courtoisie. Bonne soirée, chers auditeurs, et vive Boualem Sansal, vive Radio Courtoisie et vive la France.
Vous venez d'entendre les répliques du Nouveau Conservateur dirigé par Paul-Marie Couteau, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 12 novembre 2025 de 16h à 17h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9€. Ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.